Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission consacrée pendant 30 minutes au cinéma, évidemment. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez tous les deux deux films bien différents. On commence par toi Guillaume, un grand écart.
Ah oui, moi je suis en France et en Europe avec Simone, et je suis aux États-Unis et dans un univers gothique avec Werewolf by Night.
Et tu es en plein rhume aussi. Bonjour Manu.
Donc... Bonjour. Donc moi je serai avec Sophie Marceau pour Une femme de notre temps de Jean-Paul Sivérac, et puis un film d'horreur allemand, All People.
Marine nous parlera de Azor d'Andreas Fontana, un film qui va nous emmener en Argentine. Et puis nous irons aussi en Algérie, cette fois-ci avec Philippe Faucon, pour le film Les Harkis, un film essentiel. Et on a eu de la chance parce qu'on a pu rencontrer le réalisateur français qui a obtenu un César, on s'en souvient. Une commissaire de police est droite, sauf quand elle découvre la double vie de son mari. Une femme de notre temps, c'est un film avec Sophie Marceau.
Ben oui, c'est le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Mais provincial, hein, le précédent film de Jean-Paul Sivérac avait reçu un accueil assez glacial de la part d'une frange de la cinéphilie et de la critique très attachée au cinéma de genre. Les reproches étaient sans appel, dénonçant le plus souvent la position méprisante de l'auteur de Fantôme, hein, un de ses premiers films, vis-à-vis des formes populaires du cinéma. Alors sans refaire le débat, hein, j'ai toujours pensé que c'était une erreur d'interprétation, ou peut-être, car nul n'est parfait, une maladresse de la part du cinéaste. En tout cas, Une femme de notre temps semble avoir été pensée, réalisée en réaction au précédent, ou du moins pour répondre en creux à ses détracteurs. Alors peine perdue, Une femme de notre temps est à nouveau éreintée par une bonne partie de la presse, lui reprochant un scénario filandreux et invraisemblable, une direction d'acteur approximative et un style visuel d'un autre âge. Finalement, que des défauts qui sont aussi pour me plaire, car oui, ce thriller qui n'a de contemporain que son titre et son sujet de surface, hein, est une œuvre profondément archaïque, désuète, mais d'une beauté désarmante. Si l'on s'en tient au synopsis de manière très premier degré, le film ne se différencie guère de nombre de productions françaises post-MeToo. Juliane, commissaire de police à Paris, est une femme à l'intégrité morale sans faille. Cette facette de la personnalité est littéralement exposée lors de la séquence d'ouverture où elle ne fait preuve d'aucune pitié envers un policier assassiné mais corrompu. Mais lorsqu'elle découvre que son mari a une double voire triple vie, son monde si organisé commence à se fissurer. Elle perd pied, aspirée par la tentation d'actes qu'elle ne pensait jamais pouvoir commettre, même dans ses pires errements. Alors les amateurs de polar alambiqué avec des retournements de situation seront déçus. Les révélations n'ont rien de surprenant, hein. Au contraire, elles sont distillées par touches à travers des rêves ou plutôt des cauchemars exposant des indices et des signes évidents. Alors peut-être parfois de manière trop scolaire. Le film retrouve néanmoins la grâce naïve des grands thrillers psychanalytiques qui convoquent les fantômes de Fritz Lang et d'Alfred Hitchcock. La mise en scène, dominée par une photographie splendide, notamment pour toutes les séquences nocturnes, parvient à elle seule à transcender un scénario de série B croulant sous les clichés les plus éhontés. Jean-Paul Sivérac ne cherche à aucun moment le réalisme ou la crédibilité dans son portrait de femme d'un autre temps. Il filme le parcours intérieur d'un personnage en plein désordre mental, capable d'enchaîner les comportements les plus ahurissants et incohérents. Sophie Marceau, le visage impassible, un bloc monolithique comme si elle portait un masque, est absolument fascinante. Elle trouve là un de ses plus beaux rôles, alors que son jeu, volontairement intériorisé, est réduit à sa plus simple expression. Mais ce qu'elle fait avec son corps et la gestuelle de ce corps est impressionnant. Le discours féministe, hein, présent par essence, n'est rattaché à aucune réalité sociale et politique actuelle. Une femme de notre temps, bah, est un conte noir, une œuvre sombre et mélancolique, non exempte de défauts, qui nous plonge dans une atmosphère onirique proche du fantastique. Alors le film prend l'allure d'un voyage cinéphilique à travers le temps, mélange détonnant de films noirs de l'âge d'or hollywoodien, de cinéma gothique et de surnaturel à la Louis Feuillade. Le final, qui peut faire sourire, restitue à merveille l'ambiance si particulière du cinéma muet où Sophie Marceau, telle Irma Vep, munie d'un arc, s'enfonce dans les ténèbres, la forêt donc, en poursuivant son mari sur l'extraordinaire musique du compositeur ukrainien Valentin Silvestrov. Alors sans renier les thématiques habituelles du cinéma peuplé de fantômes et de revenants, Jean-Paul Sivérac signe un film magnifique, à la fois plus accessible par son inscription dans un genre défini et puis déroutant par sa naïveté insolente.
Une femme de notre temps est un film en salle depuis le 5 octobre. Elsa Zilberstein est grossièrement vieillie dans Simone, qui retrace le parcours de la femme politique. Alors Simone Veil, je précise la femme politique, puisqu'il y a aussi une philosophe qui s'appelle Simone Veil. Et c'est Simone.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
Vous ne m'êtes pas très sympathique.
Comment définir la mémoire? Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain.
Jamais 203. Olivier Dahan revient au genre du biopic, la biographie donc, après avoir chanté les louanges d'Edith Piaf en 2007 et la beauté de l'une des plus célèbres actrices d'Hitchcock dans Grèce de Monaco. Mais si, bien évidemment, la vie et le destin de Simone Veil sont singulièrement différents des deux portraits d'artistes précités, on note quand même une ritournelle qui a sûrement motivé Dahan à s'intéresser concrètement à ces figures. Toutes les trois ont vécu une forte pression du fait d'être des femmes, toutes les trois furent des phares culturels de leur époque et toutes les trois ont eu du mal à conjuguer vie privée et obligations publiques, que ce soit à cause d'un mari, de l'art, de la politique ou des turpitudes de la vie plus ou moins cruelle. Bref, il y avait là à chaque fois une recette idéale pour construire un récit dramatique riche et complexe, à l'image des personnalités qui ont à la fois un visage public et un visage privé. Sachant en plus que ce visage privé ne l'est plus vraiment dès lors que certaines activités enchaînent certains sujets sur la place médiatique, il y a là une manière de mettre en scène le cirque des images tel que le cinéma en raffole. J'en veux pour preuve des films comme l'exceptionnel Le Gouffre des Chimères de Billy Wilder ou encore Boulevard du Crépuscule du même Billy Wilder. Alors, attention, loin de moi l'idée de comparer Dahan à Wilder, mais on ne peut nier la volonté d'exploiter formellement cette vampirisation des médias. Rappelez-vous que la séquence la plus réussie de l'assessage escolaire La Môme fut celle de l'annonce de la mort de Marcel Cerdan, plongeant une Édith Piaf dévastée par la perte de son aimé directement de l'intimité de son appartement à la sécheresse d'une scène où, acclamée par une foule en délire, elle ne peut que baisser la tête et faire son deuil aux yeux de tous. Simone, c'est un peu une continuité de cela, mais sans la réussite de cette séquence onirique bien pensé et très symbolique.
Pourquoi il m'attaque comme ça?
Il ne supporte pas ce que tu représentes.
Comment ne pas être conscient de la nécessité de nous unir pour nous épauler les uns les autres et résister ainsi à tout retour du totalitarisme?
Pourtant, dès les premières minutes, Dahan se donne les moyens de plonger le spectateur dans les tourments qui vont accompagner Simone Veil toute sa vie. Sans aucune pause ni interruption, le premier quart d'heure est littéralement étouffant et donne franchement le tournis. Conspué par une horde d'hommes contraires à ses revendications, apparaissant en surimpression, l'effet hérité du cinéma muet et intéressant dans sa démarche artistique finit par donner plus le tournis qu'autre chose. Heureusement que les choses se calment par la suite, même si les véritables problèmes commencent. Comme si Simone ne pouvait passer à côté de la gravité de ces sujets abordés, la musique est à l'avenant. Elle est pompeuse, peu fine et surtout quasiment omniprésente jusqu'à la toute fin. Cet aveu de faiblesse par rapport à la puissance des images et du récit qu'elles sont censées porter se confirme en l'interprétation d'Elsa Zilberstein. Alors, n'y allons pas par quatre chemins. L'actrice, comme Élodie Bouchaz, qui joue sa mère dans les flashbacks, est catastrophique. Et même si on finit par s'habituer à son jeu digne d'un sketch des nuls, cette fausse note nous semble plus qu'évidente lorsque Simone Veil est jouée par Rebecca Marder de la Comédie Française lors des jeunes années de la femme politique. Marder, au contraire, sait être nuancée, émouvante et aurait sans doute dû porter tout le film sur ses épaules. Alors cela nous aurait évité un maquillage de Zilberstein qui évoque plus quelqu'un qui a avalé un dessin d'abeille avec ses gros joues enflées qu'une femme ayant pris du poids avec l'âge et ayant l'épiderme plus lâche.
Votre travail, Madame Veil.
Ma vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation.
Le FN veut mettre le bordel, faut partir.
Je reste.
Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu.
tu avais ton âge.
Il y a également un souci dans la vision de l'histoire dans ce film. Alors on met grandement un point sur la déportation, mais on ne prononce jamais le mot allemand. À croire que le problème n'est que français et flou, qu'il y a une folie et pas des gens bien précis derrière ces exactions. C'est pareil pour les passages qui parlent des pénitenciers ou de la guerre d'Algérie et qui osent justement faire un parallèle honteux avec la Shoah et les camps de concentration. Alors la chronologie qui part dans tous les sens encourage ce traitement brumeux, surtout que le film se termine sur une diatribe exhortant à ne pas confondre toutes les luttes et à ne pas toutes les mélanger. Il est vraiment bien dommage que le réalisateur, aussi scénariste, n'ait pas suivi cet enseignement, surtout qu'on le sent toujours sincère dans son travail.
Simone d'Olivier Dahan est en salle depuis le 12 octobre. Une plongée paranoïaque dans l'opacité du pouvoir en Argentine, c'est ce que propose ce thriller politico-financier Azor d'Andreas Fontana.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
De Vielle est un banquier ambitieux qui a pris ses fonctions à la suite de son père et de son grand-père. En clair, il est le petit-fils à la tête d'une grande banque suisse. Et il arrive pour la première fois en Argentine afin d'y trouver de nouveaux clients. Le pays dans lequel il débarque semble être en effervescence. Arrestations et complots sont devenus monnaie courante et même son ancien collaborateur a mystérieusement disparu sans laisser de traces. De Vielle va découvrir la face sombre d'un pays en plein changement et les liens étroits que les banques suisses entretiennent avec lui.
Que se passe-t-il ?
Je ne sais pas.
C'est la première fois en Argentine, non ?
Primera vez en el sur.
Thriller financier et politique dans le microcosme de la banque, Azor est un film qui brille par sa tension, sa noirceur et son cynisme. Le climat est hostile autour du personnage principal. Si les conversations sont tendues, elles se font toujours dans une atmosphère feutrée. Il n'y a jamais d'éclat de voix dans ces négociations entre banquiers, hommes politiques et même hommes d'église. On se demande parfois où va le film, où conduit toute cette pression latente et il faudra attendre sa dernière partie pour que les fils de l'intrigue se démêle. Tout se trame entre les lignes des dialogues, derrière les sourires et derrière les portes.
Et vous, comment vous vous sentez ici ?
Hernán Cortés aussi devait être un peu dépaysé en débarquant.
L'époque à laquelle Azor se déroule n'est pas évidente à saisir pour nous spectateurs français, si l'on n'a pas quelques éléments du contexte en amont du film. On comprend que l'on se trouve sous la dictature et que le couple fraîchement débarqué de Suisse peine à comprendre ce qui se déroule ou alors refuse tout simplement de voir ce qu'il se passe. Il est question dans Azor de la dictature militaire d'Argentine, celle qui a eu lieu entre 1976 et 1983, lorsque la junte militaire, dont un nombre significatif de membres étaient proches du nazisme, ont pris le pouvoir faisant des dizaines de milliers de disparus. Un contexte sanglant dans lequel même les gens de l'église se verront associés à la junte.
Faire qu'on doit, cela signifie faire semblant de n'avoir rien vu.
J'adore les patois.
Mon mari et moi l'utilisons, quelques cousins, le milieu de la banque privée. C'est un petit patois.
Si le film est censé advenir vers 1980, il y a volontairement très peu d'éléments qui situent le film. La reconstitution historique est subtile car tout se joue dans l'intimité des personnages plus que dans les décors. Le réalisateur Andreas Fontana, dont c'est le premier long métrage, est lui-même issu d'une famille de banquiers. Il connaît les us et coutumes de cette profession, sa puissance et sa discrétion. Le vrai territoire du banquier privé, comme le dit le réalisateur lui-même, c'est là où il va chercher son client, en majeure partie à l'étranger, d'où le choix de mettre en scène son personnage dans un nouveau pays où tout reste à conquérir pour lui.
Azor, tais-toi. Fais attention à ce que tu dis.
Mais dis-moi, qui s'avait mis dans le mille ? L'Eldorado, enfin.
Ça t'intéresse ?
Pour préparer ce film, Fontana a fait 2 ans et demi de recherche et il s'est documenté sur cette profession en rencontrant de nombreux banquiers. Pour le personnage principal, le banquier de Vielle, il a choisi un traitement tout en mystère. On ne s'attache pas au personnage, mais on est tout de même embarqué avec lui dans un univers si agressif que l'on ne peut d'abord qu'être de son côté. Un personnage dont on ne saura jamais grand-chose et qui est interprété par un comédien assez protéiforme, Fabrizio Rongione, que l'on avait découvert dans Rosetta des Frères Dardenne et qui a depuis plusieurs fois joué chez les deux frères belges. À ses côtés, Elie de Medeiros, oui, la chanteuse, désormais comédienne charismatique, et celle qui interprète la femme du banquier, une place à part entière dans ce monde très fermé, la trop rare Stéphanie Cléo, connue pour être également la compagne et co-scénariste de Mathieu Amalric, qui joue ici l'un des seuls personnages que l'on soupçonne d'avoir un semblant d'âme et qui nous donne la clé du film au cours d'un dialogue assez savoureux lorsqu'elle explique quelques expressions du patois utilisées uniquement par les personnes du milieu de la banque et que bien sûr eux seuls peuvent comprendre. Par exemple, l'expression « faire singe en bouche d'or » signifie « faire l'innocent » et « Azor », qui donne le titre au film, signifie « tais-toi, fais attention à ce que tu dis ».
Azor d'Andreas Fontana est en salle depuis le 12 octobre. Philippe Faucon nous emmène pendant 3 ans avant la libération de l'Algérie auprès des Harkis, conscients que la France leur joue un mauvais tour. C'est l'interview de cette émission.
Bah oui, c'est le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Le cinéma français a du mal avec son histoire, à moins que ça ne soit la société qui a du mal avec le cinéma mémoriel. Alors il y a peu de films qui nous renvoient à la guerre d'Algérie, même si la liste grossit. Philippe Faucon est l'un de ceux qui ont déjà traité du sujet avec La Trahison en 2006. Il avait alors pris le parti de suivre un sous-lieutenant de l'armée française stationné dans un village de l'Est algérien, dévoilant l'absurdité d'une guerre sans nom. Avec Les Harkis, présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année, celui qui a reçu un César pour Fatima en 2015, eh bien retourne en Algérie, mais cette fois-ci 3 ans avant l'indépendance du pays. Nous sommes aux côtés des Harkis, donc ces Algériens qui ont décidé de s'engager aux côtés de la France. Ces Harkis sentent bien que l'État français ne tiendra pas ses promesses d'assurer leur sécurité une fois les troupes parties. Alors il n'est pas question de les rapatrier ou alors individuellement s'ils s'engagent dans l'armée. Mais ils doivent abandonner leur famille aux représailles des Algériens du Front de Libération Nationale, le fameux FLN. Et c'est un fait. Bon nombre de Harkis ou leurs familles ont été assassinés une fois que les soldats ont levé le camp. Alors il y a plusieurs personnages dans ce film. D'abord ces Harkis dont on apprend les diverses raisons qui les poussent à rejoindre l'armée française, ce n'est pas par idéologie, mais bien souvent, faute de mieux, par opportunisme, qu'ils portent l'uniforme français. Il y a un paysan qui ne peut plus nourrir sa famille. Il y a aussi un homme qui va prendre la suite de son frère mort. On y suit plus particulièrement un lieutenant qui sent bien que la France va laisser tomber les Harkis et qui va donc tout faire pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité, quitte à s'opposer à sa hiérarchie. Alors c'est dire, s'il n'y a pas de manichéisme dans cette histoire racontée en très peu de temps, Philippe Faucon l'avait déjà dit pour la thèse intégration en 2011, ces films sont plus courts que les autres, faute de moyens, c'est 1h20, et là ce sont 3 années qui défilent. On a le temps de voir les missions de ces soldats au quotidien, dans les montagnes arides, et puis à mesure que la libération approche, les doutes, les promesses. Alors au silence succèdent les mots, les questions et les choix. La mise en scène de Philippe Faucon est ténue, les séquences de dialogue entre la hiérarchie succèdent aux séquences de terrain, puis à ce qui se joue entre le lieutenant et ses hommes. Le FLN est en hors-champ, comme un ennemi bien présent, mais aussi comme une future menace. Car une fois le pays libéré, il pourra se retourner contre ceux qui ne l'ont pas rejoint. Les Harkis relèvent d'une dramaturgie qui gagne en urgence à mesure que le film avance et que l'armée doit foutre le camp. Alors ce film sobre, équilibré, précis mériterait qu'on lui accorde une flopée de séances scolaires, car parmi les Français, qui connaît l'histoire des Harkis, qui est capable de la transmettre? Alors il est bon que le cinéma s'emploie à transmettre cette histoire. Il est plutôt bon que ce soit Philippe Faucon, donc le réalisateur des Harkis, que l'on va écouter à notre micro.
Aujourd'hui, des terroristes manipulés par des pays étrangers ont apporté le malheur dans votre pays. Mais l'armée ne laissera pas des criminels troubler la paix de vos familles.
Vous avez choisi un bataillon. Vous n'avez pas choisi forcément une vision objective, mais en tout cas, vous avez mis des militaires français. Il y en a un qui est plutôt implacable et vous le montrez brut. Et puis l'autre, le lieutenant. Alors le capitaine, il est comme ça. Et puis le lieutenant, lui, en revanche, vous le montrez proche des hommes et proche du sort qui va être réservé à ces hommes.
Eh bien, il y a peut-être quelque chose de Claude Salles qui est resté dans ce personnage. Parce qu'effectivement, ce personnage dans le film, c'est quelqu'un qui vit une rencontre avec ces Algériens qui se retrouvent impliqués pour des raisons différentes côté français et qui, lorsque la guerre va vers sa conclusion, a une attitude qui est de ne pas se défausser et de se débarrasser du sort de ces hommes avec qui il a partagé plusieurs mois très très marquants par la force des choses de sa vie.
Explique-moi sans mentir ce que l'armée va faire de nous.
T'as deux choix, tu peux signer un contrat d'engagement et intégrer une unité régulière. Dans ce cas, tu seras rapatrié en France lors du retrait de ton unité, mais tout seul.
Mais ma femme?
Non, c'est pas possible ça, mais tu pourras l'avoir plus tard quand tu reviendras.
Si ma femme et ma famille ne viennent pas, je refuse.
Et ben dans ce cas, tu seras démobilisé, et tu pourras rentrer chez toi en toute sécurité, avec une prime de démobilisation.
Alors il y avait ce personnage qui permet de raconter quelque chose, effectivement, mais pour vous c'était aussi important de montrer le capitaine qui, lui, a moins de compassion, en tout cas, enfin, est plus militaire au sens...
Toute cette histoire, c'est quelque chose de complexe. Alors évidemment, aujourd'hui, pour les gens qui ne connaissent pas et qui ont une envie ou un besoin de savoir ou de comprendre, on a forcément besoin on a dans un premier temps besoin de réponses simples. Mais les réponses simples sont pas évidentes sur cette période. Et donc, effectivement, dans le film, il y a une situation qui est complexifiée par le fait que il n'y a pas des bons d'un côté, des méchants de l'autre, c'est plus flou que ça. Et les gens qui vivent les événements sont un peu perdus eux-mêmes dans ce qui se passe.
Qu'est-ce qui est prévu pour nous?
On va bientôt savoir. Pour le moment, le capitaine fait que répéter que la paix est signée, que vous ne risquez rien et que les Felaga n'oseront pas s'en prendre à vous.
Alors qu'il reste avec nous, Louis, aussi, quand l'armée s'en ira. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est l'armée s'en va et on le laisse ici.
Mon lieutenant, emmène-nous en France.
Si on reste sur ce qu'a pu faire l'armée française, on voit que vous montrez qu'il y a eu effectivement pas des exécutions, on n'en voit pas, mais on sent la menace de l'exécution et on sent la torture.
Il y a des violences, oui. La guerre d'Algérie, c'est une période où la violence est quelque chose de extrêmement présent, pratiqué par les deux camps. Et donc, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué et très profondément les hommes et les femmes qui ont vécu ce moment-là.
La France, elle construit, elle instruit, elle ravitaille, elle soigne, elle donne du travail à vos jeunes. Aidez la France à bâtir une Algérie nouvelle. Rangez-vous derrière l'armée française, l'armée de la pacification.
Pour les Felaga, vous restez en off avec ce qu'ils ont pu faire. Enfin voilà, vous restez quand même focalisé sur l'armée française.
Le focus est fait sur les harkis, évidemment, parce que bon, c'est pas simple de raconter toute la guerre d'Algérie à travers quelque chose qui est quand même un récit pour le cinéma, un récit avec des personnages, c'est-à-dire une histoire. On est davantage sur les personnages des harkis, mais évidemment leurs adversaires, les combattants indépendantistes, ne peuvent pas être absent de ce récit, puisqu'ils sont leur adversaire et leur double, en quelque sorte.
Il les fait taire.
C'était Philippe Faucon, donc, pour le film Les Harkis, un film en salle depuis le 12 octobre que l'on vous conseille. Là, c'est un film qu'on ne vous conseille pas, mais vous avez le choix d'allumer ou non la télé puisqu'il est sur Netflix depuis le 7 octobre. C'est Old People, des résidents d'une maison de retraite qui font irruption dans un mariage.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Viens, Noah, on va chercher grand-père.
C'est quoi ça? Un genre de tombe?
Non, c'est un monument. Elle est censée protéger les familles et faire en sorte qu'elles restent unies. Et...
Salut, papa.
Ce qui brise ces liens familiaux attire une malédiction sur eux.
Alors voilà, sur le papier, All People est le genre de projet alléchant qui propose un concept, on va dire excitant, hein, renouvelant quelque peu le genre horrifique. Alors des vieux qui pètent les plombs et deviennent des sadiques meurtriers sans raison, voilà un sujet qui peut aussi bien alimenter une comédie gore et très noire qu'un film d'épouvante très glauque. Alors c'est bien dans la dernière catégorie, hein, donc le film d'épouvante glauque, que se situe ce film allemand produit par Netflix. Alors de retour dans son village, avec ses deux enfants pour le mariage de sa sœur, une femme se confronte à son passé, notamment son ex-mari. Le village a changé, les jeunes ont déserté la campagne, mais bon, pour une soirée, ce n'est pas vraiment la fin du monde. Mais c'est sans compter donc le réveil des vieux dans l'EHPAD d'à côté, tous atteints de démence et de pulsions meurtrières.
Tu dois honorer les anciens, car leur nombre est grand. Et un jour, vous compterez tous parmi eux.
autant le dire tout de suite, hein, All People est un ratage total, hein, ne traitant jamais réellement son sujet, comme l'avait fait par exemple, cette année Paco Plaza avec son excellent Abuela. Rapidement, on ne fait pas la différence entre les seniors en fin de vie et de vulgaires zombies. Le scénario ne cherche d'ailleurs jamais à innover, préférant capitaliser sur des recettes éculées depuis la nuit des morts vivants. Mais le pire dans cette production insignifiante, hein, typique des plateformes, hein, reste la mise en scène. Dès les premiers plans, ça coince. Le réalisateur Andy Fletcher opte pour des choix incongrus, hein, comme de surdécouper le film, empêchant la moindre chance au métrage d'installer une ambiance oppressante. De plus, la photographie, hein, dominante un peu verdâtre et marron, est d'une laideur absolue, peu aidée par un étalonnage approximatif. Alors ce film d'horreur terne et moche, hein, n'a même pas l'intérêt, j'irais, d'une série Z, parce que les moyens sont quand même là. Les acteurs plutôt bons, hein, font ce qu'ils peuvent pour défendre des personnages inconsistants, et les effets spéciaux sont quand même corrects. Le minimum syndical, d'un produit sans âme, au minimum bien fait, mais qui n'est rien d'autre en fait qu'un téléfilm dans tous les sens du terme, comme je dirais la majorité des productions Netflix, surtout dans le cinéma de genre.
Eh bien voilà, c'est dit. Donc All People est sur la plateforme américaine. Des chasseurs de monstres tentent de récupérer une réplique magique, Werewolf by Night, c'est sur Disney+, cette fois-ci.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Cette nuit, c'est chacun ou chacune pour sa peau.
Bonne chance à tous. Et comme le dit l'expression, rien ne sert de pourri.
Alors, rien ne sert de courir, mais je dois bien l'avouer, dans tous les cas, Disney et moi, c'est pas une affaire brillante. Hein. Alors, après les supplices infligés à Sam Raimi, hein, Robert Zemeckis ou encore Hocus Pocus, il fallait quelque chose d'un peu costaud, hein, pour me donner envie d'y replonger le nez cette année. Hein. Alors, après l'auteur d'Evil Dead, hein, après l'auteur de La mort où va si bien, et j'en passe, il ne manquait plus, pour me faire tomber dans le piège, que de cocher la case hommage aux Universal Monsters. Alors, cette poignée de productions issues des studios Universal du début des années 30 jusque dans les années 50 a donné naissance aux incarnations les plus mythiques de Dracula, Frankenstein, le loup-garou, l'homme invisible, etc., etc. Pour les besoins d'un programme spécial créé pour les besoins, on imagine, de contenu neuf pour Halloween qui approche à grands pas, voilà Tipa que le musicien Michael Giacchino, hein, donc fan devant l'éternel de culture populaire et des Universal Monsters, donc, qui double son poste derrière son archer pour passer derrière la caméra pour une histoire d'une heure se passant dans l'univers Marvel, et traitant d'un loup-garou à coquiner à la créature du marais qui fuit une bande de chasseurs. Alors je semble résumer brutalement, mais en fait, il n'y a pas vraiment plus dans cette proposition de Disney+.
Un monstre se fait passer pour l'un des nôtres. J'ai hâte de découvrir à quelle race de démons tu appartiens.
S'il est assurément un homme de goût, hein, et peut-être même le seul en activité dans le studio de la Maison des Idées, il suffit d'écouter ses magnifiques BO pour les trois derniers Star Trek pour s'en convaincre, Giacchino à la mise en scène, c'est une autre histoire. L'argument de l'hommage aux Universal Monsters tombe à l'eau dès les premières minutes, tant l'ensemble ne ressemble à rien à l'esthétique de ses films. Alors il y a certes du noir et blanc, mais vu que ça doit être trop dur pour les jeunes d'aujourd'hui de se passer de couleur, la mystérieuse pierre que tout le monde convoite apparaît tout le temps en couleur, d'un rouge éclatant, rappelant la paresse de l'entreprise et la vision décidément très limitée de l'art chez Kevin Feige, le producteur en chef de Marvel. Alors les cadres et la mise en scène, eux aussi, n'ont rien des plans millimétrés de James Whale ou de Carl Freund, et on alterne prise de vue hésitante à l'épaule et raccord moche, fait au petit bonheur la chance uniquement présent, pour tenir la chandelle à un rythme terriblement mou, alors que l'ensemble dure tout juste moins d'une heure. Et à un humour qui empêche toute implication. Alors, la créature du marais avait déjà eu son adaptation chez Wes Craven en 82, qui avait du charme, mais qui manquait quelque peu de moyens. Hélas, si aujourd'hui il est possible de tout faire en image de synthèse, il n'est toujours pas possible de se passer d'un vrai scénariste pour créer un semblant d'intérêt à ses personnages, qui plus est naturellement intrigant car hors norme. Donc comme à son habitude, Marvel préfère désacraliser les mythes qu'elle met en scène, empêchant à l'ensemble de prendre une quelconque dimension un tant soit peu iconique. Alors après, entre autres, son dieu nordique Gradubit dans Thor et ses suites, voilà que Werewolf by Night se termine avec le loup-garou redevenu humain, faisant une partie de cartes avec la créature à la manière de la troupe de super-héros à la fin d'Avengers qui squattait un fast-food pour se reposer. Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes, surtout si les spectateurs répondront toujours présents. À bon entendeur, zappé.
Tu vas tout voir, mon amour.
Faites pas ça.
L'heure de ta mort se rapproche à grands pas.
Werewolf by Night est donc sur la plateforme Disney+.
Alors.
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
j'ai passé un très bon moment.
C'est vrai.
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec des films et une interview, celle de Gilles Perret pour le film Reprise en main. Et vous, eh bien, ce sera une thématique.
Oui, moi, c'est le mauvais esprit d'Halloween. Alors, c'est le nom français hein, qui est un peu différent du nom américain. Mais voilà, il est question d'Halloween.
Moi, ce sera le nouveau Halloween, Halloween End.
À la semaine prochaine.